enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Notre témoignage de 14 ans est retrouvé, par exemple, dans un psaume comme le psaume 3 qui dit « À haute voix, je crie à l'Éternel. Il relève ma tête. Il me soutient. Il me répond de sa montagne sainte. » Depuis 14 ans, nous crions à lui. Il relève nos têtes, nous donne des forces. C'est ainsi, l'explication du psalmiste est la mienne ce matin. C'est la seule qui est vraie. C'est ainsi que ta bénédiction a été sur ton peuple. C'est ainsi que ta bénédiction sera sur ton peuple, ô Éternel. S'il y a quelques bénédictions, avancements et progrès à l'œuvre de l'Église Nouvelle Vie, c'est parce que nous avons simplement crié vers lui. C'est comme ça que nous avons été bénis et c'est comme ça que nous sommes bénis. Et la bénédiction de demain dépend d'un peuple qui va continuer à appeler à lui. La simplicité du miraculeux, la recette Nouvelle Vie, pour nous, c'est simplement ma tâche première, notre tâche de leader de cette église première, notre plus grande responsabilité est d'amener, de ramener, de raviver, de rappeler, de restaurer et de ramener le plus de gens possible en prière. Si nous, on amène des gens dans la présence de Dieu, on amène des gens devant Dieu, on ramène des hommes et des femmes, les leaders, les croyants, dans la présence du Seigneur, à ce moment-là, le plus de gens possible, c'est la plus grande responsabilité. Une fois que ça s'est fait, à ce moment-là, nous sommes là, nous crions à Dieu et nous guettons, nous attendons, nous sommes pleins d'expectatives et Dieu vient bénir l'ouvrage de nos mains et multiplier ce que nous faisons et ce que nous sommes pour lui. Depuis 14 ans, nous pouvons voir notre vie être résumée par le psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, comprends mon gémissement, ô Éternel. Sois attentif à mon cri d'appel. Et des milliers et milliers de cris d'appel ont monté vers Dieu, celui qui entend et celui qui répond. Et le psalmiste le dit de cette façon, « Le matin, je viens à toi avec mes prières et je guette. Je vais devant ton Saint-Temple et je me prosterne devant toi. » Beaucoup de gens qui demandent, dans plusieurs interviews qu'on donne et toutes sortes de documentaires et interviews, des gens qui s'intéressent et disent, c'est quoi une image là, qui capture l'essence de Nouvelle Vie? Puis il y a des personnes qui ont dit, bien, une banque alimentaire, ça, c'est ça qui capture Nouvelle Vie, des gens qui veulent se donner vers ceux qui souffrent, une image, une photo de la banque alimentaire, et c'est vrai. C'est notre cœur de soutenir Action Nouvelle Vie dans son œuvre et touchant des milliers de personnes à chaque mois. D'autres ont dit, c'est la crise du verglas. Lorsque le verglas a frappé le Québec et que l'Église est devenue une maison d'hébergement, un centre d'hébergement, jour et nuit accueillant des centaines de personnes, cette photo-là, ça c'est une image de Nouvelle Vie. D'autres personnes ont dit, une Nouvelle Vie, c'est des choses comme récemment, le centre Limoges, aller vers un centre où des garçons qui ont été démolis par la vie demeurent et sont sous des soins et aller rénover l'endroit au complet. D'autres personnes ont dit, c'est à Noël, les activités de Noël. Quand je vois la distribution des paniers de Noël, des cadeaux, les concerts de Noël, ça c'est Nouvelle Vie. Quelqu'un d'autre dirait, bien c'est une classe de l'ITF avec des centaines de personnes qui sont là, assis pour être formés dans l'excellence au service de Dieu. Ça, c'est Nouvelle Vie. Et moi, je vous dirais, si on regarde la prochaine image, que toutes ces images-là sont des facettes de Nouvelle Vie. Mais aucune image, aucun portrait ne capture la réalité et qui nous sommes plus que simplement cette image qu'on vient de lire dans le psaume qui dit, Seigneur, tout le matin, moi, je viens vers toi, je crie à toi, je guette, et ensemble, nous venons dans ton Saint-Temple et nous nous prosternons devant toi. J'aimerais vous dire que l'image qui capture le plus qui nous sommes, c'est un peuple qui crie vers Dieu et qui croit en un Dieu vivant qui répond à la prière, et à lui ce matin soit toute l'honneur, toute la gloire et toute la louange, et que l'Église Nouvelle Vie dise amen et applaudisse celui qui nous a donné la lumière et la vie. Le psaume 18 capture notre témoignage du dernier 14 ans lorsqu'il dit « J'ai crié à mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix et mon cri est parvenu jusqu'à lui. Et c'est toi, Seigneur, qui a fait briller notre lumière et qui a éclairé nos ténèbres. » Nous, on a crié vers toi, et c'est toi, Seigneur, qui a fait briller ta lumière à Longueuil. C'est toi qui a éclairé les ténèbres de cette ville et de cette province, et dans la grâce de Dieu vers la francophonie. Il y a, lorsqu'on est arrivé il y a 14 ans, lorsqu'on a été rassemblés ensemble, de manière ouverte et dans des écrits même, dans des lettres et des documents et des rapports qui avaient été faits, on appelait la ville de Longueuil le cimetière des pasteurs. Il y avait eu tellement d'efforts qui avaient été mis et des églises qui fermaient. C'était une œuvre qui était tellement difficile dans cette ville. Mais comme à chaque anniversaire, je suis ici ce matin pour saluer, souligner et rappeler ceux qui nous ont précédés. Depuis des décennies, il y a des gens qui sont ici, vos parents, il y a des gens qui sont quelques personnes, leur père, leur mère, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, sont venus semer à Longueuil, sont venus prier, sont venus servir le Seigneur. Et nous croyons que nous avons entré où d'autres ont semé. Et on est, s'il y a eu une avance, s'il y a une lumière qui a brillé, c'est à cause de Dieu qui a répondu. Pas une seule de ces prières n'a été perdue. Ils ont été recueillis par la main de Dieu qui a répondu à chacune de ces prières. Moi, la première réunion au mois de juillet 93, alors qu'on était en prière pour savoir la direction de Dieu et cette possibilité de démarrer avec ce groupe, un nouveau départ pour l'œuvre de Dieu ici à Longueuil. J'ai été invité à aller adresser un groupe. Ce matin-là, il devait avoir une trentaine d'adultes dans une petite salle sur la rue Saint-Thomas. Mais il y a deux choses qui m'ont marqué. Lorsque je suis arrivé, je suis arrivé à peu près une heure avant la réunion, toute petite salle avec quelques chaises. Mais lorsque je suis rentré à peu près une heure avant la réunion, il y avait 4 femmes qui étaient déjà en prière. Une était la femme du pasteur, le pasteur Oscar Massot, qui nous a précédés. Et Mme Massot qui était là, il y avait la maman d'Olivier Chihuahua, que vous connaissez, qui était là, 2 autres dames. Et les 4 femmes levaient leur voix vers Dieu. Puis je me souviens encore de leur prière, parce que j'étais rentré dans la pièce, puis je m'étais mis derrière discrètement, et j'avais commencé tellement touché. 4 femmes dans ce petit local qui priaient, puis elles disaient, « Seigneur! » Tu vas bâtir une église à Longueuil. Seigneur, envoie des âmes. Seigneur, envoie des ouvriers. Seigneur, qu'il y ait des saluts et des âmes sauvées dans cette ville. La réunion a commencé, une trentaine d'adultes, il y avait une seule personne qui ne connaissait pas le Seigneur, une seule nouvelle, c'est la première fois qu'elle venait à l'église, elle s'appelait, il y a 14 ans, elle s'appelait Céline, elle s'appelle toujours Céline de toute façon, et Céline est venue pour la première fois, c'est une professeure, elle est ici ce matin, et Céline, c'est la seule personne qui ne connaissait pas le Seigneur, j'ai prêché le message, et j'ai fait l'appel, et elle a levé sa main, elle a donné sa vie au Seigneur, elle a été baptisée dans les mois qui ont suivi, et moi j'ai sorti de ce lieu-là avec le cœur qui battait, parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui prie et que c'est comme si Dieu disait, j'ai entendu le cri de toutes ces femmes, il y a des rapports sur cette ville, on s'apprête à fermer cette église, on dit qu'on ne pourra pas faire une œuvre à Longueuil, mais plus fort que cela, il y a la prière d'hommes et de femmes qui a monté vers Dieu, et je savais que cette âme sauvée, cette personne qui lève la main, était pour être suivie par des milliers d'autres, parce que Dieu est le Dieu qui a augmenté notre lumière. Vous devriez lui donner gloire ce matin. C'est lui. C'est toi, Seigneur, qui as fait briller notre lumière. C'est pas un message habituel, c'est un message d'anniversaire. J'apporte cette pensée non pas dans aucune intention de nous comparer avec qui que ce soit, mais je m'adresse aux gens de l'Église Nouvelle-Vie ce matin, en particulier à votre cœur. Je veux qu'il y ait dans nos cœurs ce matin un sens d'émerveillement, un sens de gratitude, un sens d'attention, Seigneur, que je ne prenne pas pour acquis, que je ne prenne pas à la légère ce que tu as fait au milieu de nous dans ces derniers 14 ans. Parce que cette œuvre, cette église, s'est bâtie dans une période qui est une période que plusieurs considèrent. Il y a beaucoup d'experts qui étudient ou de chrétiens qui étudient l'œuvre de Dieu au Canada dans les derniers 10 ans, dans les derniers 15 ans, dans les derniers 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui considèrent cette période du dernier 15 ans comme une période excessivement difficile pour l'œuvre de Dieu à travers le Canada. Vous savez, si les pasteurs qui sont un peu plus âgés qui sont ici, si les années 70 à 85 ou 75 à 90 ont été des années d'effervescence, d'implantation, de renouvellement pour plusieurs, ces dernières 15 années ont été des années extrêmement douloureuses que certains ont qualifiées d'années de sécheresse et de difficultés. Et au milieu de cette sécheresse, Dieu a fait une œuvre. J'étais bouleversé. J'étais mis sur mes genoux en prière lorsque récemment j'ai lu cet article de l'organisme évangélique Church Planting Canada, qui est extrêmement sérieux, très rigoureux, et c'est sorti en 2006, qui disait quelques statistiques sur l'implantation d'églises, qui disait que, par exemple, l'année où on a démarré l'Église Nouvelle-Vie ensemble ici, donner ce souffle, ce nouvel élan à l'œuvre qui avait déjà été établie depuis des années à Longueuil, il y a eu 221 églises implantées en 93, la même année que nous. 221 églises se sont implantées en 93 au Canada, à travers tout le pays, 10 provinces. Plus de 2000 églises implantées depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Il y a 33 % de ces églises qui ont fermé leurs portes. On a commencé, on a débuté, puis après ça, on est obligé de fermer. 93 % qui ont une assistance de moins de 80 personnes. 61 % qui ont vu leur assistance diminuer. Seulement 5 % qui ont connu une courbe de croissance, mais avec la moyenne et la grande majorité qui sont à moins de 100 ou à moins de 80 personnes. Et la statistique qui m'a amené dans le jeûne et la prière et va continuer à le faire, c'est qu'il y avait 96% des églises qui étaient déjà existantes, qui n'ont pas connu de croissance depuis 1993. Que personne ici ne pense une seconde que c'est à cause d'attributs humains ou de capacités humaines que cette œuvre a été accomplie pendant ce temps-là ici, à Longueuil, que nous avons vu ce que nous avons vu. Je veux le déclarer avec les mots du psaume 18 et peut-être que vous allez vous joindre à moi pour lui donner la gloire en disant, c'est toi, Seigneur, qui a fait briller notre lumière dans notre ville, dans notre province et dans notre pays. Vous risquez un amen ce matin. À lui soit toute la gloire. Pendant ce temps à Longueuil, nous avons vu l'Église grandir à plus de 3000 personnes qui fréquentent l'Église en ce moment, chaque semaine, d'agrandissement en agrandissement. Nous avons une première salle qui avait 150 places, après ça 500 places, toujours des constructions, des équipes de bénévoles. On a bâti, on a acheté un endroit qu'on a rénové, on est venu ici par la suite, par la grâce de Dieu ici. Le bâtiment ici a été bâti, 2500 places ou 2400 places. On est maintenant allé à deux réunions, on a agrandi les locaux ici, rénové et agrandi les locaux ici. On a acheté le bâtiment pour Action Nouvelle Vie, rénové et agrandi le bâtiment en soutien à Action Nouvelle Vie. Nous avons acheté le bâtiment pour le pavillon de l'autre côté de la rue, le pavillon Nouvelle Vie Francophonie, nous l'avons déjà agrandi et rénové. Je veux vous avertir avec fraternellement, si vous venez à l'église pendant quelques semaines, nous allons vous rénover et vous agrandir si vous êtes assis ici. Combien d'entre vous, vous avez eu une rénovation de l'esprit et un agrandissement de votre cœur pendant que vous avez été... Par la grâce de Dieu, c'est toi, Seigneur, qui a fait briller notre lumière. 8000 personnes qui reçoivent de l'aide humanitaire. Action Nouvelle Vie, qui distribue plusieurs millions de nourriture à chaque année. Des programmes comme Bon Départ pour les mamans et leurs enfants, Retour à l'école, la boutique Le Support, le nouveau programme Traduire l'espoir qui touche des centaines de familles, de personnes et d'enfants immigrants qui arrivent vers le Québec. C'est toi, Seigneur, qui a fait briller notre lumière. Plus de 400 étudiants vont prendre des cours et être formés pour le leadership et le ministère à l'Institut de théologie pour la francophonie cette année à Longueuil, mais aussi avec un campus maintenant sur la rive nord à Laval, un centre qui est en Guadeloupe, un centre qui est en Israël, des églises à travers la France et par Internet qui prennent des cours partout dans la francophonie. Je souhaite officiellement, on va prier pour eux dans les prochaines semaines, mais je veux souhaiter officiellement la bienvenue à tous les étudiants qui sont ici, qui viennent d'arriver pour la session de septembre. On a commencé les classes et les étudiants de France, Suisse, de Belgique, les étudiants qui viennent d'Haïti, qui viennent d'Afrique, qui sont ici. Nous vous accueillons avec émotion et avec affection dans ce lieu et nous voulons vous dire, vous êtes l'accomplissement du rêve de Dieu et vous êtes l'accomplissement de ce que Dieu avait prophétisé. Nous vous accueillons avec joie comme des fils et des filles de la vision. C'est toi, Seigneur, qui a fait briller notre lumière. Plus de 100 000 personnes qui téléchargent les messages de l'Église Nouvelle Vie. C'est toi, Seigneur, qui a fait briller notre lumière. Des pasteurs et des artistes de l'Église Nouvelle Vie qui ont apporté leur ministère seulement en 2007 dans plus de 15 pays, de Longueuil vers une quinzaine de pays. C'est toi, Seigneur, qui a fait briller notre lumière. Des centaines de pasteurs, de ministères, d'églises et d'organismes qui vont se joindre à l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie en 2007, déjà plusieurs dizaines de titulaires de lettres de créance, de titulaires de lettres d'accréditation, d'églises, de ministères, d'organismes, des églises de l'ACF déjà présentes, déjà avec nous, qui sont à Pointe-aux-Trembles, à Saint-Jérôme, à Laval, à Montréal-Nord, à Québec, à Sorel, à Repentigny, à Longueuil, à Verdun, à Waterloo, et nous voulons couvrir cette carte géographique avec des nouvelles églises qui vont avoir un message d'espoir et de vie et qui vont faire briller leur lumière dans toute la province de Québec et que ceux qui aiment l'œuvre de Dieu au Québec crient « Amen » dans ce lieu ce matin. Et à l'avance, applaudissez pour ce que Dieu va faire dans cette province. C'est pourquoi nous sommes ramenés par le Seigneur en prière en ce dimanche 14e anniversaire. La semaine dernière, nous avons vu que c'est la passion qui me ramène à la prière. C'est la peur de perdre ce que Dieu a pour moi qui me ramène à la prière. Et ce matin, c'est un passé de puissance et de progrès qui me ramène à la prière. Et c'est ma poursuite de nouvelles percées qui me ramène à la prière. C'est un passé de puissance et de progrès dans nos vies personnelles, simplement comme enfants de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 18 un témoignage qui pourrait être le vôtre et le mien. Et pendant que je le lis, et même au-delà de parler de ce que nous pouvons faire et avons et allons faire et accomplir ensemble, je voudrais en ce dimanche, 14e anniversaire, que vous vous arrêtiez un instant et qu'une louange puisse monter vers Dieu pour ce que Dieu a fait dans votre vie, dans ces derniers 14 ans. Il est tellement facile pour nous d'avoir les yeux, la pensée et le cœur remplis, aveuglés, bloqués par tout ce qui manque, tout ce qui devrait arriver, tout ce qui n'est pas arrivé, tout ce qui a été déception, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui n'a pas été répondu. Et ce matin, je voudrais vous demander de permettre à l'Esprit de Dieu de mettre pendant un instant, de remettre une perspective à votre cœur et de vous arrêter. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous dans les derniers 14 ans. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous. Le psalmiste a dit, moi je viens, ce qui me ramène à Dieu, c'est qu'il a été tellement fidèle pour moi. Il a été tellement puissant. Il a mon passé est rempli de progrès et de puissance. Lorsque j'ai crié à lui, il m'a répondu, il le dit de cette façon. Et alors que je lis ces versets, je raconte votre histoire. Je regarde à cette assemblée, moi je suis le pasteur. Il y a plein de gens qui sont ici, les délivrances que Dieu vous a données. Où vous étiez il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 14 ans, ce que Dieu a fait pour vous. Ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont été restaurés, ceux qui ont été rebâtis. Dans mes notes, c'était écrit que vous diriez amen à ce moment-ci sans que je vous le demande. Le psalmiste le dit de cette façon. Je t'aime, Éternel, mon libérateur. C'est toi qui m'as sauvé. Dans ma détresse, j'ai crié à lui et il m'a répondu. C'est toi, Éternel, qui m'as délivré de ce qui était plus fort que moi. Le Seigneur a été mon appui au jour de mon malheur et de mes épreuves. Les derniers 14 ans, à travers ce que vous avez passé, certains d'entre vous, des épreuves hallucinantes dans la vie de vos enfants, dans la vôtre, votre mariage, votre service pour Dieu, votre ministère, votre santé, votre propre vie, vos affaires, votre travail. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et dire, dans les derniers 14 ans et plus, mais certains d'entre vous depuis des décennies, à travers toutes mes épreuves, Dieu a été mon appui. Il m'a jamais laissé, il m'a jamais abandonné. Lorsque je n'étais pas fidèle, lui est demeuré fidèle. Et ce matin, je veux lui dire, Seigneur, je t'aime. C'est un passé de puissance qui nous ramène à la prière dans nos vies personnelles comme enfants de Dieu, mais aussi dans nos victoires comme peuple et comme Église de Dieu. Il y a quelque chose pour nous en tant qu'Église ce matin, en ce dimanche anniversaire. Le psaume 18 le dit de cette façon. C'est Dieu qui a revêtu de force, qui nous a revêtu de force et qui a dirigé nos chemins. C'est lui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il m'a rendu capable de monter et de me tenir sur les hauteurs. Tu nous as fait allonger le pas, tu as élargi mes pas sous moi. Mes chevilles n'ont pas chancelé. C'est parce que tu nous as permis de demeurer dans l'humilité et la paix de cœur et d'échapper aux disputes du peuple que tu nous as fait devenir grands. Notre témoignage en tant qu'Église, c'est que cette image hallucinante de la biche qui semble si fragile, qui semble si frêle et qui pourtant commence à monter la montagne et gravit et monte et monte et monte. Et nous disons ce matin, c'est seulement ce midi, c'est seulement par la puissance et la grâce de Dieu qui nous a permis en tant qu'Église de goûter et de vivre et d'ouvrir une porte pour des centaines d'autres églises alors que nous avons vécu des hauteurs, vécu des progrès, vécu une croissance, vécu une provision nouvelle qui annonçait une ère nouvelle pour le Québec. Il annonçait une ère nouvelle. Et j'étais tellement touché qu'il dit, c'est toi, Seigneur, qui m'a permis non seulement de monter vers les hauteurs, mais d'y demeurer. Je rends grâce à Dieu que notre témoignage n'est pas celui d'un feu de paille qui a brûlé intensément pendant quelques années pour par la suite s'écrouler. Par la grâce de Dieu, d'année en année, son onction s'accentue, les fondations, les racines sont profondes. Et avec toute la reconnaissance pour le premier 14 ans, combien ont cette foi avec moi que les plus grands exploits de l'Église Nouvelle Vie sont dans le prochain 14 ans par la grâce de Dieu. Cette dimension, c'est-à-dire ensemble nous avons vécu, cette bénédiction que je chéris tellement, qui nous a permis, parce que nous sommes en prière, parce qu'on en a continuellement, année après année, amené l'Église en prière, nous avons échappé aux disputes du peuple. Nous avons été élevés au-dessus de l'esprit de meurtrissure, de division, de rancœur, d'humiliation, d'accusation, d'abaissement l'un de l'autre, qui a arrêté, paralysé et éteint tellement d'églises dans ces derniers 14 ans. Nous avons échappé aux disputes du peuple. Dans le temps de jeûne et prière, cette semaine, il y a plusieurs pasteurs qui nous ont adressé. Chacun d'entre eux est une grande bénédiction. Et moi, j'aime les temps de jeûne et prière pour aller vers Dieu, mais j'aime aussi les temps de jeûne et prière pour voler du matériel aux pasteurs. Eux amènent des affaires, moi je prends tout en note, puis c'est moi qui prêche le prochain dimanche matin. Alors, il y a plein de choses que j'ai volées. Pasteur Philippe a une assist, un terme de hockey. Le but compté par Pasteur Claude avec l'aide de Philippe Jauret dans les prochains quelques minutes. Cette pensée que Dieu nous a permis d'échapper aux disputes du peuple. Trop d'églises et de leaders chrétiens québécois ont été coulés par les disputes du peuple et ce qu'on pourrait appeler la folie de Acte 19, verset 32. Et Acte 19, 32, a longtemps été le portrait de l'Église et des leaders dénominationnels du Québec. Voici ce que Acte 19, 32 dit. Les uns criaient d'une manière, les autres criaient d'une autre, mais la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. J'aimerais vous déclarer ce matin une des grâces de Dieu dans les derniers 14 ans. Il faut que dans la prière, nous soyons continuellement ramenés par Dieu. J'aimerais déclarer par la foi, nous savons pourquoi nous sommes réunis. Nous savons pourquoi nous sommes réunis. Nous savons pourquoi nous ne sommes pas réunis. Nous ne sommes pas réunis pour nous abaisser, pour souligner ce qui nous sépare. Nous ne sommes pas réunis pour laisser l'amertume perdurer. Nous sommes réunis pour combattre les vrais adversaires et nous sommes réunis pour voir la gloire de Dieu se manifester. Quelqu'un devrait crier Amen dans ce lieu. Psaume 18. Psaume 18, j'ai crié à mon Dieu. Il a entendu ma prière. C'est lui qui fait briller notre lumière, qui éclaire les ténèbres. Et c'est lui qui nous donne nos victoires sur nos adversaires. Cette pensée que nous sommes ramenés, nous avons échappé aux disputes du peuple. Et en tant qu'Église, ce passé de progrès et de puissance où nous avons dit, Seigneur, je me rappelle qui est mon vrai adversaire. Mon vrai adversaire n'est pas la personne à côté de moi. Mon adversaire n'est pas quelqu'un qui a une pensée différente sur une théologie ou sur un passage biblique. N'est pas mon adversaire ne sera jamais quelqu'un peut-être même qui m'a déçu ou qui m'a blessé. Mon adversaire, ça ce n'est pas l'adversaire. Ce n'est pas l'adversaire, ce n'est pas contre ça que nous combattons. Nous sommes des gens rassemblés par la main de Dieu pour faire briller le nom de Jésus et pour abattre les vrais adversaires. Notre adversaire, c'est la pauvreté des gens de Longueuil. Notre adversaire, c'est l'incrédulité de millions de Québécois. Notre adversaire, c'est l'injustice qui est faite à nos enfants. Notre adversaire, c'est chaque personne qui arrive ici, pas elle, mais l'abus qui a été mis sur elle, qui arrive ici en miettes et qui a besoin d'être relevé. Notre adversaire, c'est des gens désespérés qui ne savent pas vers qui se tourner parce qu'ils ont été aveuglés, le voile qui a été mis sur eux. Et par la grâce de Dieu dans le prochain 14 ans, on ne se combat pas les uns les autres. On s'unit ensemble pour aller combattre contre les ténèbres et l'incrédulité et faire briller la lumière de son message sur cette rive sud et dans chacune des vies que Dieu nous permet de toucher. Allez-y pas à moitié cœur. Allez-y de tout votre cœur avec moi. C'est un passé de puissance et de progrès qui me ramène à la prière et je termine avec ceci ce matin. C'est ma poursuite de nouvelles percées qui me ramène à la prière. Avec toi, verset 30 du psaume 18 qui apparaît à l'écran de la diapo 23. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je vais renverser des forteresses et des murailles. Il exerce ma main à la bataille. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviendrai pas avant d'avoir remporté mes combats. Tu me donnes des forces nouvelles pour le combat. C'est une image de cette foi, parfois presque puérile, cette foi innocente, cette foi qui n'a pas toutes les réponses, qui ne sait pas comment ça va se faire, cette foi qui semble remplie d'une audace qui est seulement possible en Dieu. L'image, c'est qu'il y a une cohorte, il y a une armée toute serrée de centaines ou milliers de soldats, où il y a une forteresse, une muraille infranchissable, puis tu as quelqu'un, tu n'as un qui part et qui, de toutes ses forces, part à courir. Moi, je m'en vais comme un kamikaze de Dieu, je m'en vais pour une percée, je m'en vais attaquer une muraille que j'ai aucun moyen d'abattre par moi-même, mais si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est ça qui a caractérisé le début de Nouvelle Vie, une groupe de personnes qui dit, Seigneur, on va bâtir une église à ta gloire. C'est seulement par l'œuvre de l'Esprit. Et ouais, c'est ça qui me ramène à la prière. Parce que j'ai vu tellement de gens qui ont déjà eu ce cœur-là, le perdre au fil des combats et des défaites et des attentes et des périls et des délais et des déceptions. Vous comprenez le contexte de David. Lorsque David a écrit ce psaume, le psaume 18, c'est un psaume qu'on dit psaume de David, le serviteur de Dieu, après que Dieu lui ait donné une victoire contre ses ennemis et après qu'il ait eu une victoire alors que Saül l'avait poursuivi si longtemps. Et David qui avait eu ce cœur pour Dieu, qui avait eu cet appel de Dieu, qui sort d'un arrière-plan où sa famille l'avait meurtri, où il avait été abaissé, on avait tout fait pour le garder petit, pour l'avilir, pour le diminuer à ses propres yeux et l'oublier. Et alors qu'il est seul et qu'il a tous ses rêves pour Dieu, qu'il semble que ses rêves sont presque impossibles, un homme de Dieu arrive, il met sa main sur lui, met une huile sur sa tête et lui dit, tu n'es pas fou, les rêves que tu as sur ton cœur, Dieu les a aussi pour toi. Et alors que l'huile coule sur sa tête, l'huile d'onction, et s'entremêle avec ses larmes d'espoir. Dit, Dieu m'a entendu. David a commencé à répondre à l'appel de Dieu. A abattu un géant. Mais les combats ne cessent pas. Et Saül le pourchasse. Et quand vous lisez le psaume 18, ce n'est pas une version hollywoodienne de la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement des exploits et des moments héroïques. Ce n'est pas seulement tomber à la renverse dans une piscine creusée avec un verre de thé glacé à la main. Non, non, et dans le psaume 18, vous avez des expressions, vous lirez à la maison. Oui, il y a des exploits, je vais abattre des murailles, je vais chuter en bas, je vais poursuivre mes ennemis jusqu'à ce que la victoire me soit donnée. Mais dans le texte, il y a aussi des ennemis, mes détresses, les liens de la mort qui m'avaient environné, des angoisses, des combats, tout dans le psaume 18, des chutes, des blessures, des attaques, des coups violents qui auraient pu me terrasser. Dans le psaume 18, il y a la vie telle que vous et moi, on la connaît. Moi, ce matin, je peux me tenir ce côté-ci de l'estrade et prendre des heures, jusqu'à 5 heures, jusqu'à demain matin, et vous raconter tous les exploits du dernier 14 ans, et dire, Seigneur, chaque histoire vraie, incroyable, comment Dieu a pourvu le miracle, la réponse aux prières, les exploits, la croissance, la réponse de Dieu. Et je peux me tenir sur ce côté-ci de l'estrade pendant le même 14 ans et vous raconter les attaques, les blessures, les douleurs, les coups qui m'ont jeté par terre, les moments où j'étais étourdi, où j'avais de la difficulté à me relever. Et les deux sont vrais, et ça, mes bien-aimés, c'est la vie. Et David, ici, aurait pu tout simplement, là, c'était un moment de victoire, et David aurait pu juste dire, c'est assez, là, c'est beau, j'ai traversé tellement de choses, maintenant, je vais juste rester peinard, je vais juste rester ici, je vais juste couler, je vais juste aller avec l'élan. Mais par l'Esprit de Dieu, il y a une poursuite de nouvelles percées qui est dans son cœur. Malgré tout ce que j'ai vécu, moi, je vais abattre d'autres forteresses. Je vais attaquer d'autres cohortes. Et malgré tout ce que j'ai pu traverser, il y a quelque chose qui monte en moi. Je vais continuer à poursuivre mes ennemis par l'aide de Dieu jusqu'à ce que toutes mes victoires me soient accordées. Je vais le dire de cette façon-ci. La poursuite de percées, spirituellement, là, la poursuite de nouvelles percées pour Dieu, c'est un sport de contact. Je vais faire ça une autre fois, je vais en réveiller trois autres. La poursuite de percer, c'est un sport de contact. Moi, je suis un papa de hockey. Mon fils est un joueur de hockey, il a 14 ans. Et depuis qu'il est tout petit, il a commencé à patiner avec 4 ans. Et puis, il joue au hockey. Puis, cette année, c'est une année de transition très, très dure pour les parents, spécialement pour les mamans. Parce que c'est l'année entre Pee-wee et Bantam 2 Lettres, Bantam 2A, l'équipe élite de Longueuil. C'est l'année où tu passes du hockey sans contact au hockey contact. Jusqu'à maintenant, moi comme parent, comme papa, à partir de 4 ans, c'est les mêmes petits gars, là, tu connais tous les petits gars, tu connais les autres parents. Puis il y a des petits garçons qui jouaient avec Samy lorsqu'il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui étaient les vedettes de Longueuil, les meilleurs petits joueurs, petits patineurs rapides, qui volent comme le vent, des mains incroyables. Il y en a qui connaissent pas l'hockey, restez avec moi quelques instants, ce sera pas long. Des mains hallucinantes, capacité de marquer, capacité de patiner, s'en va en tête basse, il se promène, il déjoue tout le monde, il fait des passes, il marque des buts. Il était une vedette à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais là, cette année, ça commence avec le contact. Ils ont le droit de plaquer. Moi, quand j'avais 14 ans, on jouait contact et j'ai eu une commotion cérébrale, moi, à 14 ans. À 14 ans, j'ai rentré un gars dans la bande et j'étais debout, j'ai resté 3 secondes de trop à regarder avec. J'étais au-dessus de lui pour le narguer, au-dessus de son cadavre, sur le bord de la bande. Puis j'ai resté là une ou deux secondes de trop, puis un gars qui est arrivé avec son bâton, puis il m'a fait un cross-check en arrière dans le cou. J'ai rentré la face dans la bande, commotion cérébrale à 14 ans. Ils m'ont sorti sur une civière en ambulance, ma mère qui est en bas dans l'ambulance. C'est mon dernier moment où j'ai perdu connaissance, je suis réveillé à l'hôpital. Mais le dernier moment que j'étais conscient, il y avait toute l'aréna parce qu'on jouait à l'étranger, il y avait toute l'aréna qui disait bouh, bouh. Ben bon, le cochon! Et qui criait après moi. Et qui, le dernier moment de conscience, c'est qu'il y a un gars qui a dompé son popcorn sur moi. Il m'a garaché son popcorn. Ça a tombé sur moi, ma mère, l'ambulance. Et j'étais baptisé dans la fraternité des vrais Québécois. Cette année, j'ai vu des garçons, un après l'autre. La transition, bantam. J'ai vu plein de petits gars décider de changer de carrière. J'ai vu des petits gars là, devant nos yeux pendant les parties d'avant-saison. J'ai vu des petits gars la semaine passée, la semaine d'avant, depuis un mois. J'ai vu des petits garçons qui, depuis des années, marquent des buts, la tête penchée se promène. Et la semaine passée, s'en allait, la tête penchée. Toujours le beau petit coup de patin, toujours élégant, toujours des mains magiques. Et puis, il s'en va avec la rondelle, puis arrive au milieu de la glace, puis il y a un train qui le frappe. Bang! Puis dans les estrades, le petit gars tombe sur le dos, les pattes par en arrière, plus capable de se relever. Et j'entends, je dis à mon épouse, lui, il vient de changer de carrière, il vient de faire un différent choix de carrière. Puis, savez-vous ce qui se passe dans le hockey mineur? Je vais lâcher le hockey dans une seconde. Mais c'est important, parce que dans le hockey mineur, tu as le droit de continuer à jouer toute ta carrière sans contact. Tu as juste à jouer, tu peux jouer bantam, tu peux jouer midget, tu peux jouer junior sans contact. Puis il y a plein de joueurs que c'est ça qui décide. Je veux continuer, moi, à patiner avec mes mains magiques puis mon patin élégant. Je vais être encore sur la glace, je vais continuer à virevolter, mais je ne veux pas me faire frapper. Puis quand je dis frapper, là, contact, là, il y en a d'entre vous, je pense que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas joué au hockey ou vous n'avez jamais joué au hockey. Et pour le bénéfice de ceux qui ne savent pas de quoi je parle, on va juste regarder un instant quelques contacts. Juste que vous compreniez de quoi je parle. Allons-y, messieurs les techniciens, montrez-moi, donnez-moi une image de contact. Regardez ça, madame Sadler. C'est de ça que je parle, là. Regardez, il y a une image de la vie spirituelle ici.
You know, when I'm bon. Talking about tough guys, I'm talking about the guys that go into the corners first. They're the ones that
regardez
pay
bien,
the price, right?
T'en montrer un dernier. Lui, là, regardez-le bien. Regardez bien, il va essayer de se relever. Regardez-le.
Get up, that up, boy, Yanny.
OK, on va arrêter ici. On va arrêter ici. Il y a beaucoup de croyants qui, dans leur vie chrétienne, à un moment donné, décident, moi, à partir de maintenant, je joue, pas de contact. Je ne veux pas me faire frapper. Je vais rester à l'église, je vais rester sur la glace. Mais je ne veux plus donner, je ne veux plus m'impliquer, je ne veux plus sacrifier, je ne veux plus croire, je ne veux plus aller dans la réponse à l'appel de Dieu. Je ne veux plus pardonner, relâcher, oser y aller. David aurait pu. David aurait juste pu, dans le psaume 18, dire, c'est assez, là, avec tout ça, puis tous les ennemis qui sont venus, puis là, j'ai un moment de paix, je veux juste rester ici. Mais l'Esprit de Dieu l'appelle et dit non, il y a encore des armées à attaquer. Il y a encore des forteresses à abattre. Et l'Esprit de Dieu dit à chaque personne ici qui a été frappée. Moi, quand je regarde cette vidéo-là, je comprends très bien, je n'ai jamais joué dans la Ligue nationale, mais dans la Ligue nationale de la vie chrétienne, combien d'entre vous avaient été frappés, puis il y a des moments où je suis étourdi, puis j'essaie de me relever, puis je me sens encore un peu faible. Combien d'entre vous avaient eu ces tentations de dire, je vais rester sur la glace, mais je vais jouer le reste de ma vie sans contact, mais l'Esprit de Dieu dit à toi ce matin, relève-toi, relève-toi, ma grâce est là, mon esprit est là, et j'ai encore des percées, des exploits pour toi, j'ai encore des actes miraculeux, si tu es prêt à résister. Quelqu'un devrait applaudir l'Esprit de Dieu qui nous appelle à des percées. Que les musiciens s'approchent et qu'on va aller dans la prière dans un instant. Dieu vous appelle à résister. Dans les prochaines semaines, on va regarder ensemble à certaines des percées qu'on croit que Dieu nous appelle à faire ensemble en tant qu'Église. Des exploits, des projets, des choses que Dieu met sur nos cœurs pour des percées qui n'ont jamais été accomplies encore par la grâce de Dieu dans cette province. Mais ce matin, c'est à vous que Dieu veut parler. Il veut t'amener, toi, à un renouvellement de ta poursuite de Dieu. 14 ans, les gens... Je vais vous poser la question. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé à nous comme une jeune église. L'Église de Velvie a célébré 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On est une jeune église. À 14 ans, je me posais la question cette semaine. À 14 ans, est-ce qu'on est encore une jeune église? J'aimerais vous dire que ce n'est pas une question d'années. Ce n'est pas une question du nombre d'années. Être vieux, c'est lorsque nous avons plus de regrets que de rêves. Être vieux, c'est, on peut avoir comme église, une église qui a 5 ans, puis elle est vieille déjà. On peut avoir 15 ans, et mon rêve et mon aspiration, c'est qu'on célèbre le 14e et le 20e et le 30e et que nous soyons jeunes de cœur. Parce que quelles que soient les douleurs et les blessures, nous allons devant lui, nous sommes ramenés et Dieu nous renouvelle. Puis il y a tout un peuple qui se lève et qui dit, c'est pas les regrets qui vont le remporter. Les rêves que j'ai avec Dieu sont plus grands que tous les regrets que j'ai pu vivre. Cette dimension de résister. Cette dimension de résistance spirituelle. Lorsque j'ai entendu cette semaine ce témoignage que j'avais entendu lorsque j'avais été en France et qui a été ravivé à mon cœur, qui m'a beaucoup touché. Si vous allez dans la ville de Montpellier, vous allez voir, il y a une tour qui est là qui s'appelle la Tour de la Constance. Et il y a une dame qui était là il y a plusieurs années, bien sûr, elle s'appelle Marie Durand et qui est née en 1712 et qui est représentée une foi protestante, une foi évangélique, une foi chrétienne qui était sous une persécution
où ils étaient littéralement mis à mort, à moins qu'ils ne renient leur foi. Et cette dame, la mère de Marie a été arrêtée et sa mère est morte en prison. Son frère a été arrêté et exécuté le 22 avril 1732. Son père, bien que plus âgé qu'elle, était lui aussi en prison. Son fiancé a été arrêté et elle, le jour de ses noces, à 18 ans, elle a été arrêtée et elle a été mise en prison. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est de renier sa foi, de renier l'Évangile, de renier la parole de Dieu, de renier le message de Christ et on la libérerait. Mais elle est restée en prison et elle y est restée pendant 38 ans. Et pendant ces 38 ans, tout a été fait dans certains écrits sur Internet, toutes sortes d'articles qui sont là-dessus, parlent de tout ce qui lui a été fait, de tout ce qu'on sait qui lui a été fait, de douleurs et de tortures, qu'elles soient psychologiques et autres, à des choses aussi cruelles que des gens qui venaient simplement pour la tourmenter, pour essayer de la convaincre, de toutes sortes de façons. Tu aurais pu te marier, est-ce que toi, tu n'aurais pas voulu avoir des enfants, est-ce que tu ne voudrais pas avoir une famille, tu as juste à renier ta foi, tu as juste à arrêter, tu as juste à abdiquer, tu as juste à lâcher. Et avec une aiguille, elle a écrit dans la pierre une image qui va apparaître à l'écran, elle a écrit dans la pierre « Résister ». Résister. Et après 38 ans, elle est sortie, elle a été libérée, puis elle est sortie, puis elle est devenue une incarnation, un symbole, une voix, un message qui a inspiré des croyants à travers les âges à dire « Je vais résister ». Le mot « résister » dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, le mot « résister », antithésimie, d'où nous tirons le mot « antihistaminique ». Résister veut littéralement dire « opposer la force à une force ». Et c'est des gens d'Église Nouvelle Vie qui vont se lever ce matin et dire « Seigneur, quelles que soient les forces qui viennent contre moi, pour que je joue maintenant ma vie sans contact, pour que maintenant je prenne une vie chrétienne rituelle et routinière, j'oppose à ces forces d'incrédulité, ces forces de peur, ces forces de petitesse, ces forces d'amertume, ces forces de paresse spirituelle. Par la grâce de Dieu, je veux résister. Je veux me tenir. Par la grâce de Dieu, il y a la force de mon Dieu. J'oppose la force de mon Dieu, de la foi et de l'appel de l'Esprit afin d'accomplir de nouvelles percée pour le royaume de Dieu. Alors mon appel est très simple, pendant que Dan va commencer à jouer doucement. Combien Dieu est grand. Je vais vous demander de pencher la tête pendant un instant, puis je vais appeler maintenant à toute une génération qui vont dire, Seigneur, tu veux me parler. Tu m'appelles ce matin. Dans les prochaines semaines, nous allons parler de percée que nous pouvons vivre ensemble. Nous allons annoncer prophétiquement des projets, des percées, des actions, des ministères, que nous croyons que Dieu appelle l'Église Nouvelle Vie, l'ACF, à accomplir. L'ITF, Action Nouvelle Vie, à accomplir dans cette province, dans cette ville, cette province et dans les nations. Mais ce matin, c'est à vous que Dieu parle. C'est à toi, bien-aimé. C'est à toi, monsieur, madame, papa, maman, jeune homme, jeune fille, serviteur de Dieu, homme ou femme du Seigneur. Dieu veut raviver dans ton cœur l'esprit de la percée. Je refuse devenir quelqu'un qui va vivre sa vie chrétienne sans contact, sans combat, sans défi, sans exploit. Je refuse que les regrets étouffent, avortent et noient les rêves que tu m'as donnés. Alors ce matin, je veux dire, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es grand, combien tu es grand. Seigneur, je veux que tu m'amènes, toi, grand Dieu, que tu élargisses mon cœur à nouveau, que tu guérisses ce qui doit être guéri en moi, que tu fortifies ce qui doit être fortifié. Et en ce dimanche 14e anniversaire, je veux me lever pour dire, Seigneur, moi, je veux de nouvelles percées dans ma vie. Je veux attaquer à nouveau, je veux avoir ce zeste, cette force d'attaquer à nouveau les murailles, les cohortes infranchissables, les murailles. Un groupe de personnes, Seigneur, dans une petite salle, avec ce cœur, on bâtit les premières 14 ans de l'Église Nouvelle Vie. Nous sommes entre 3 et 4 000 maintenant qui entendons ta voix. Et seulement toi, Seigneur, qui sais ce que nous pourrions accomplir. Si chaque personne qui est dans ce lieu se lève pour dire, nous voulons de nouvelles percées avec toi, notre Dieu. Je veux ce cœur, je le veux pour ma vie, je le veux pour mes enfants, je le veux pour mon couple, je le veux pour mon ministère, mon service pour toi, je le veux pour ma marche avec toi. Et si vous êtes ici ce matin, moi, je suis déjà debout. Je ne suis pas seulement debout parce que j'ai apporté le message. Je suis debout parce que je suis totalement consacré à cette pensée. Moi, je dis, Seigneur, merci pour hier, mais moi, je veux une nouvelle percée dans ma vie. En 2007 et dans les prochaines années, dans les prochaines 14 ans, par ta grâce. Alors, si vous êtes ici ce matin et vous dites, pasteur, moi aussi, je refuse de juste être sur la glace. Je refuse de juste être là. Je veux me lever et réclamer des percées de la part du grand Dieu. J'aimerais que vous vous leviez ce matin. que vous tendiez vos mains vers le Seigneur et commenciez à lui dire, pendant quelques minutes, levez votre voix et dites, Seigneur, voici la percée que je te demande, toi qui es grand Seigneur. Alléluia. Le roi, dans sa beauté, fait son entrée dans ce lieu ce matin et il est grand. Et nous allons terminer, entrer dans un temps de prière en disant, combien Dieu est grand. Le roi, dans sa beauté, le roi est ici ce matin, il vous appelle, il est grand. Il est un grand Dieu qui veut faire une grande œuvre et te donner un grand cœur et te donner une grande vision et te donner une grande guérison et te donner une grande foi et te donner un grand courage, une grande résistance. Résistance que tu puisses écrire sur la pierre de tes épreuves. Résistance. Que le droit de Dieu puisse écrire sur ton cœur. Résistance. Je poursuis mes ennemis. Je vais chercher mes ennemis. Je n'abdiquerai pas, abandonnerai pas tant que je n'aurai pas remporté toutes les victoires que Dieu avait pour moi. Le roi dans sa beauté est ici dans sa majesté et il vous appelle ce matin. Le roi est ici. Levons nos cœurs vers lui ensemble.
Le roi dans sa beauté.
Chantons-le ensemble. Vêtu de majesté.
Vêtu.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.